Ensemble.
Il est 10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'être avec nous. Dans 10 minutes, priorité santé avec Caroline Paré, mais d'abord toute l'information. RFI vous informe. Bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Juan, bonjour à tous. À la une, les États-Unis où les enquêteurs tentent de savoir s'il y a un lien entre deux événements. D'abord, l'attaque à la voiture Bélier pendant la nuit du Nouvel An à la Nouvelle-Orléans. Et puis, quelques heures plus tard, l'explosion d'une voiture devant un hôtel appartenant à Donald Trump à Las Vegas. Reportage à suivre à Damas où les anciens membres du régime syrien continuent de se rendre dans des bâtiments administratifs pour régulariser leur situation et tenter ainsi d'échapper à des poursuites judiciaires. On va parler de la Corée du Sud où le président déchu Yoon Suk-yeol pourrait être arrêté aujourd'hui. Et puis dénouement heureux au Royaume-Uni, une femme retrouvée vivante 52 ans après sa disparition. Elle n'était alors qu'une adolescente. Des perquisitions en cours aux États-Unis, notamment à la Nouvelle-Orléans. Après la nuit meurtrière de la Saint-Sylvestre, au moins 15 personnes ont été tuées lorsqu'une voiture a foncé dans la foule qui déambulait dans le très touristique quartier français de la ville. Le suspect, lui, a été abattu par la police et son profil se dessine, Loubna Naki.
Oui, il s'agit d'un citoyen américain âgé de 42 ans. Son nom, Shamsuddin Jabbar. Il est originaire du Texas. Il a servi 13 années dans l'armée et a même été déployé en Afghanistan en 2009 avant de quitter le service avec les honneurs en 2020. Il a deux filles âgées de 15 et 20 ans, issues d'un premier mariage. Il se serait converti à l'islam au cours des dernières années et avait apparemment d'importants problèmes d'argent selon des documents officiels relatifs à son deuxième divorce. Selon les autorités, il a loué le pick-up utilisé dans l'attaque à Houston sur une application de location de voitures entre particuliers et sur la route entre le Texas et la Nouvelle-Orléans. Il a enregistré des vidéos dans lesquelles il raconterait avoir eu d'abord l'intention de réunir les membres de sa famille pour les tuer avant de changer d'avis et de plan. Sur ces mêmes vidéos, il explique avoir été inspiré par l'État islamique. Les enquêteurs estiment qu'il n'a probablement pas agi seul. Ils espèrent en apprendre plus en perquisitionnant son domicile à Houston.
Merci Loubna Naki, correspondante de RFI à New York. Et y a-t-il un lien entre cette attaque de la Nouvelle-Orléans et l'explosion d'une voiture hier devant l'hôtel Trump de Las Vegas? Les autorités ne l'écartent pas totalement. À Las Vegas, le Cybertruck, un modèle de pick-up de la marque Tesla, a explosé, faisant un mort, le conducteur. 7 passants ont également été légèrement blessés. Le shérif de Las Vegas a tenu une conférence de presse et Kevin McMahill a tenté d'apporter quelques réponses aux nombreuses questions encore en suspens.
Je ne vais pas vous confirmer de nom aujourd'hui, car je ne suis pas sûr à 100% de l'identité de la personne. Ce que je peux vous dire, c'est que nous savons que le camion a été loué dans le Colorado. Nous avons pu suivre ce camion grâce aux bornes de recharge Tesla. Et il est arrivé ici à Las Vegas ce matin vers 7h30 et a parcouru Las Vegas Boulevard avant de s'arrêter devant les tours Trump. Malheureusement, il y avait 7 personnes qui ont été blessées lors de cet incident. Toutes souffrent encore de blessures mineures et ont été prises en charge à l'hôpital.
Le shérif de Las Vegas, Kevin McMahill. À Gaza, la défense civile annonce la mort d'au moins 11 personnes après une frappe imputée à Israël contre une tente abritant des déplacés dans la zone d'Al-Mawazi, à l'ouest de la ville de Ran Younes, dans le sud de l'enclave. Parmi les victimes, 3 enfants, ainsi que le chef de l'ex-police du Hamas, désormais démantelé. Contacté par nos confrères de l'agence France Presse, l'armée israélienne dit examiner les faits. Israël, où l'ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, annonce lui son intention de démissionner de son poste de député. Il y a des moments où il faut faire une pause et réévaluer la direction à prendre, annonce-t-il dans une allocution télévisée. Il avait été démis de ses fonctions de ministre en novembre par le Premier ministre Benjamin Netanyahou après une série de désaccords sur la stratégie à mener à Gaza. Première visite à l'étranger pour le nouveau ministre syrien des Affaires étrangères. Il est arrivé en Arabie Saoudite hier soir, un royaume frère, a dit Assad al-Shibani, affirmant que cette visite permettrait d'ouvrir une nouvelle page dans les relations syro-saoudiennes. Riyad a longtemps été un soutien des rebelles syriens avant de rétablir le contact l'an dernier avec le gouvernement de Bachar al-Assad, finalement renversé début décembre par une coalition de groupes rebelles. Et depuis la chute du régime, des centres de réconciliation ont vu le jour à Damas pour régulariser la situation des anciens membres du régime, armée, police ou encore services de sécurité. Et l'affluence est forte. Reportage de notre correspondant Mohamed Erami.
Les militaires ayant servi sous Bachar al-Assad se rassemblent devant ces centres pour remettre leurs armes et entamer les procédures de régularisation afin d'éviter des poursuites judiciaires. L'un d'eux, rencontré devant le centre de Medze, a partagé son expérience.
Je suis venu aujourd'hui pour régulariser ma situation et faire une régularisation avec l'Ayat. J'étais lieutenant dans l'ancien régime militaire et cette régularisation me permettra d'améliorer ma situation de vie. J'espère que cette étape se déroulera bien. Les démarches ici sont simples et l'accueil est très bon.
À l'intérieur du centre, les fonctionnaires ne chôment pas. Ils doivent répondre aux demandes des Syriens venus régulariser leur situation, d'anciens membres du régime et réintégrer légalement les déserteurs. Après des interrogatoires et des vérifications, ceux dont les mains ne sont pas entachées de sang reçoivent une protection juridique. Abou Yamen, l'un des responsables du centre.
La direction militaire a émis une liste de personnes recherchées par les forces de sécurité pour être poursuivies. Et une nouvelle liste sera publiée, incluant les noms de ceux qui ont commis des crimes contre les Syriens. Conformément à cette décision, des sanctions seront appliquées.
Bien que les nouvelles autorités syriennes n'aient pas publié de chiffres officiels sur le nombre de personnes régularisées, le ministère de l'Intérieur a indiqué que ces individus recevront une carte d'identité spéciale, valable 3 mois, garantissant leur protection contre toute poursuite pendant cette période. Mohamed Erami, Damas, RFI.
En Corée du Sud, le président déchu Yoon Suk-yeol pourrait être arrêté aujourd'hui selon plusieurs médias locaux. Il est visé par un mandat d'arrêt, lui qui refuse toujours de répondre aux convocations de la justice pour s'expliquer sur son coup de force. Début décembre, il avait décrété pendant quelques heures la loi martiale avant de faire marche arrière sous la pression des députés qui l'ont depuis destitué. Ça doit encore être validé par la Cour constitutionnelle. Le patron de la compagnie aérienne Jeju Air, interdit de quitter lui la Corée du Sud, annonce de la police ce matin alors que c'est cette compagnie qui a frété l'avion qui s'est écrasé dimanche à l'aéroport de Muan dans le sud-ouest du pays. 179 personnes ont péri. La réplique nigériane après la publication d'un avertissement du ministère des Affaires étrangères australien. Il déconseillait vivement à ses ressortissants de se rendre dans le pays le plus peuplé d'Afrique en raison d'un risque élevé de kidnapping et de terrorisme. Eh bien, réponse du Nigeria, Lisa Fabian, il met en garde ses citoyens sur le risque de discrimination et de harcèlement qu'ils pourraient subir pendant leurs vacances en Australie.
Sur le site Smart Traveler du ministère des Affaires étrangères australien, l'avertissement est clair. Il est vivement déconseillé de se rendre au Nigeria, y compris dans la capitale Abuja, du fait d'une situation sécuritaire volatile, de menaces de terrorisme, de kidnapping, de crimes violents et de troubles sociaux. Les voyageurs sont sommés d'éviter totalement 24 États fédérés sur les 36 que compte le Nigeria. Toutes les régions du nord-est, du nord-ouest et du sud-est du pays sont incluses dans cette liste, dans laquelle on retrouve aussi le territoire de la capitale fédérale, la région d'Abuja. Ces recommandations mises à jour le 20 décembre n'ont visiblement pas été du goût du ministère des Affaires étrangères au Nigeria, qui n'a pas tardé à émettre ses propres conseils aux voyageurs souhaitant se rendre en Australie. Les Nigérians dans le pays doivent se montrer prudents face à l'augmentation d'incidents antisémites ou islamophobes liés au contexte international et qui accroissent le risque de violence. Les autorités nigérianes pointent aussi des cas de discrimination, de harcèlement ou d'insultes envers les étrangers dans certaines villes australiennes.
La précision de Lisa Fabian. Le bilan s'est alourdi au Monténégro. 12 morts dont 2 enfants après une fusillade hier dans le sud du pays. L'assaillant poursuivi par la police a finalement mis fin à ses jours. Tout serait parti en fait d'une dispute sur fond d'alcoolémie avec le client d'un restaurant, l'un des lieux où la fusillade a éclaté. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Il débute aujourd'hui. Elle avait disparu il y a 52 ans alors qu'elle n'était qu'une adolescente. Sheila Fox vient d'être retrouvée au Royaume-Uni. Elle est en bonne santé, aujourd'hui âgée de 68 ans. Retour sur cet incroyable dénouement depuis Londres avec Marie Billon.
L'affaire remonte au printemps 1972 lorsque Sheila Fox, alors jeune lycéenne de 16 ans, disparaît de la ville de Coventry, au centre de l'Angleterre, à quelques kilomètres de la grande ville de Birmingham. Ses proches, sans nouvelles depuis 5 décennies, pensent qu'elle a fugué avec un homme plus âgé qu'elle fréquentait à l'époque. Ou pire, après des années sans nouvelles et sans traces d'elle dans les fichiers de l'administration, il lui imagine un destin funèbre. Jusqu'à cet incroyable rebondissement, fin décembre, 52 ans après sa disparition, la police de la région des West Midlands, qui n'a pas encore classé l'affaire, lance un énième appel à témoins en publiant sur les réseaux sociaux une photo de Sheila datant de l'époque de sa disparition. quelques heures après, la police est contactée et les informations transmises vont l'aider à résoudre l'une des plus longues enquêtes de son histoire. Sheila Fox est une retraitée saine et sauve qui vivrait aujourd'hui dans une autre partie du pays. Marie Billon, Londres, RFI.
À Londres, où il est 9h10, même heure en temps universel. Restez avec nous, vous avez rendez-vous avec Caroline Paré pour Priorité Santé.